et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette émission spéciale de Résonance. Donner la parole, accompagner tous ceux et toutes celles qui s'aventurent sur les chemins des pratiques artistiques et de la création, c'est tout l'enjeu de Résonance. Être un espace radio, est un espace radiophonique de rencontre et de dialogue afin de développer un espace de proximité. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, Résonance s'est installée au cœur de la Bourgogne, à Dijon, dans la Grande Orangerie, pour découvrir de l'intérieur ce rendez-vous artistique incontournable qui est devenu en quelques années la Biennale d'art singulier, imaginée, portée par l'association Itinéraire Singulier. C'est la troisième édition de cet événement, dont la thématique est les hommes cabanes, et qui accueille un très large et nombreux public depuis le 24 janvier dernier, et qui, j'en suis sûr, continuera de recueillir un vif succès jusqu'au 16 mars prochain, date de la clôture de cette présente édition. Depuis sa création en 2000, l'association Itinéraire Singulier accompagne des projets artistiques à l'interface des champs sanitaires, sociaux et culturels, dans une démarche partenariale et de réseau. Et à ce titre, l'association est identifiée comme pôle ressources régionales, art, culture et handicap. Et la Biennale d'art singulier est l'une des actions phares d'Itinéraire Singulier. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Alain Vasseur, directeur artistique d'Itinéraire Singulier. Bonjour.
Bonjour.
Venceslas Desriveaux aussi, vous êtes infirmier au CHU.
Bonjour. Bonjour.
Et puis également Joël Le Guen.
Bonjour.
Voilà, qui est aussi, je crois, administrateur aussi de l'association, mais aussi également infirmière aussi au CATTP et au CHS La Chartreuse. Et puis, grand plaisir aussi d'accueillir Joseph.
Bonjour.
Bonjour, qui participe justement, et on verra tout à l'heure, à certains des projets artistiques qui ont lieu dans la Biennale. Également Marie Ginet, qui est administrateur de l'association et très investi aussi dans un certain nombre de projets de l'association.
Bonjour. Oui.
Bonjour. Et enfin Camille Boucherie, qui est chargée de la communication et des relations publiques au sein de l'association Itinéraire Singulier.
Bonjour.
Voilà, alors avec tous ces invités, on va essayer, chers auditeurs, de vous faire pénétrer de l'intérieur ce qu'est toute cette dynamique formidable qui se déroule ici à Dijon et dans le cadre de cette biennale et puis surtout de cette association Itinéraire Singulier. Alors peut-être c'est avec vous, Alain Vasseur, qu'on va essayer de commencer, mais peut-être on pourrait essayer de dépeindre en quelques mots comment un tel projet, qu'est celui d'Itinéraire Singulier, a pris forme ou comment il a réussi à associer des énergies et des individus dans un tel projet qui maintenant s'inscrit aussi également dans une certaine durée maintenant.
Oui, alors c'est bien de rappeler un petit peu l'histoire et la naissance d'Itinéraire. Juste un tout petit historique rapide parce que ça permet de mieux comprendre
tout à fait
le projet actuel. Le projet est né en milieu psychiatrique, je l'ai déjà rappelé dans d'autres émissions, mais il faut savoir que dans les années 70, on voit après 68 naître au sein des hôpitaux psy beaucoup de médiations expressives, l'art-thérapie, musicothérapie,
musicothérapie également.
Toutes les formes d'expression se développent après mai 68 et on voit se développer beaucoup de médiations dans les hôpitaux psy. Les années 80, on voit la fermeture de lits à l'hôpital et l'ouverture de structures extra-hospitalières. Mmh. On ouvre des structures à l'extérieur de l'hôpital et forcément, les médiations qui avaient lieu à l'intérieur se déplacent vers l'extérieur sur le champ social. Les années 90, qui dit inscription dans le champ social, dit inscription à un moment donné dans le champ culturel. Alors on va naître dans les années 90 un certain nombre de festivals qui naissent un petit peu partout en France.
Oui, complètement.
Les plus connus qui existent encore actuellement, Arrêt des chirures,
oui.
dans ces années-là.
On peut penser à Figeac aussi qui était dans
Figeac, voilà, tout ça. Ceux qui perdurent, c'est ceux qui ont su croiser les publics. Figeac, c'est un petit peu auto-détruit.
Oui,
parce
qu'ils n'ont pas croisé les publics.
Parce qu'ils n'ont pas croisé les publics. Mmh. Donc les années 2000, c'est l'année de la réflexion. Se dire, il est important de permettre à des personnes en situation de rupture ou d'exclusion de s'inscrire dans une dynamique culturelle. Mais si on fait un festival autour du handicap, autour de la maladie, on ne touche que les proches ou les professionnels qui gravitent autour. Donc l'idée des années 2000, c'est l'interrogation, c'est de croiser le public. Itinéraire naît vraiment dans ces années-là avec cette histoire-là. Avec cette histoire-là, moi je dirige un centre d'accueil thérapeutique qui a été créé en 1986, entièrement axé sur la dynamique des processus d'expression. On s'est aperçu que c'était l'importance qu'il y avait de remettre la personne en situation d'expression. Donc c'est ce qui marche forcément sur le champ sanitaire, dans le champ culturel. L'accès à la culture est un droit pour tous, ouvert à tous. Et donc qui est important dans le champ sanitaire, c'est forcément important dans le champ social. Donc on a invité les gens à s'inscrire dans des dynamiques de projet et dans des dynamiques culturelles à partir de ce projet qui est itinéraire singulier, qui croise les publics, tous les publics et toutes les initiatives.
Oui, donc là c'est une démarche forte et importante. Peut-être... Elle était en tout cas isolée au départ. Est-ce qu'il y avait d'autres gens aussi sur le même territoire qui s'engageaient dans ce type d'aventure ou là, où les gens qui se sont réunis autour d'itinéraire, ça faisait vraiment fédération
oui,
de ceux et celles qui voulaient s'aventurer là-dessus.
Dans le centre que je dirige, nous avons développé très tôt une ouverture sur le champ culturel et on a croisé beaucoup de partenaires. Et pendant 10 ans, on a nous-mêmes sillonné la France à la recherche de festivals qui sont susceptibles de nous accueillir. Mmh. Mais on a aussi constitué un réseau important à ce moment-là. Mmh. Donc c'est 10 années de réseau avant que l'association se construise. Et quand l'association se construit, le réseau, il est là.
Donc, oui, voilà, c'est ça.
On peut s'appuyer déjà sur un réseau pour construire les premières bases de cette association. Et le premier festival croise un certain nombre de publics. Et la dimension d'ouverture s'affiche d'autant plus dans la deuxième édition du festival. Avec un réseau qui petit à petit se construit au fil des années et qui grossit et qui
fait peut-être qu'à un moment donné, itinéraire se développant, toutes ces initiatives bien sûr prenant de l'ancrage aussi dans ce territoire, les liens aussi institutionnels peut-être aussi se manifestant peut-être de manière plus précise ou en tout cas s'engageant de manière un petit peu plus appuyée vis-à-vis de l'action menée.
Voilà. Alors l'action menée aussi est relié quand même à le projet culturel hôpital qui s'est développé dans les années 97-98.
Complètement.
Où là, il y a une volonté, effectivement, d'inscrire les hôpitaux dans un volet culturel. Donc nous, on s'est inscrit un petit peu logiquement là-dedans, mais, naturellement là-dedans, mais c'est pas ce qui a lancé vraiment le projet l'itinéraire. Mmh. Le projet s'est fait bien en amont avec l'action qu'on menait déjà sur le territoire dans le cadre de l'espace des expressions que je dirige. Voilà.
Vous êtes sur Tropic FM et nous sommes toujours à la Grande Orangerie à Dijon dans le cadre de la Biennale organisée par Itinéraire Singulier. Et là, l'extrait que nous venons d'entendre du compositeur chinois Jing Guangcheng, né en 1951, c'est une œuvre qui s'intitule Iris dévoilée, qui est interprétée par Wu Bixia et Ke Luhua, soprano Mai Shuai, voix de l'Opéra de Pékin et l'Orchestre National de France, placé sous la direction de Murai Tang. Et cette œuvre, en tout cas, Iris dévoilée pour trois sopranos traditionnels. On voit bien un mélange musique traditionnelle, musique, la modernité aussi, la musique contemporaine aussi chinoise, alliant aussi instruments occidentaux et instruments traditionnels chinois. Alors cette œuvre aussi, c'est justement un petit peu pour évoquer quelque part, faire écho un peu à la programmation aussi de cette année, de la troisième Biennale d'Art Singulier, et notamment, je dirais, cet artiste important qui est Mario Del Curto, ce photographe suisse qui sillonne le monde entier et qui collectionne des images exceptionnelles issues de rencontres avec des artistes hors les normes et qui est justement l'un des artistes invités de cette édition 2014. Alors Camille Boucherie, comment elle se déroule finalement? On vient d'entendre avec Alain Vasseur l'historicité de cette biennale et de ce qu'elle travaille d'Itinéraire Singulier. Alors, depuis qu'elle a commencé le 24 janvier dernier, comment elle se porte cette biennale finalement?
Mais elle se porte plutôt bien, je crois. Alors, la biennale, c'est vrai que cette année, on l'a construite autour du travail photographique de Mario Del Curto.
Voilà, ça, c'est un des invités importants.
Ouais, le photographe de l'art brut, il est vraiment identifié dans le monde entier pour sa démarche atypique d'aller.
Alors, je veux dire, nos auditeurs, ils ne peuvent pas bien sûr le percevoir, mais dans cette orangerie, nous sommes au cœur de cette exposition et entourés de tout ce travail de Mario Del Curto. Et qui est, voilà, il y a des photos magnifiques. Enfin, c'est vraiment extraordinaire aussi, toutes les impressions que dégage chacune de ces photos. Quoi.
Oui, les retours du public sont bons. C'est vrai que chacun est amené à découvrir des intérieurs de maisons ou des jardins extraordinaires. Et ça renvoie un petit peu aussi à une sorte d'enfance retrouvée. Et le thème des hommes cabanes, c'est vraiment en écho du travail de Mario sur cette photographie des habitats qu'il nous est venu. Donc l'homme cabane nous a aussi permis, en fait, en écho de l'expo photo, de lancer un appel à création de cabanes un peu partout en région Bourgogne, donc en amont de la Biennale. Dès le mois de juin, on a lancé un appel à création, donc en invitant toutes les structures de la région, éducatives, sociales, sanitaires, à pouvoir créer et construire une cabane collective. Donc au sein d'une structure, chacun était invité à amener un petit peu de ce qu'il était pour faire une cabane. Et on a donc une expo de cabanes dans le parc de l'Arquebuse.
Ça veut dire que combien de structures, par exemple, ont réagi à votre appel, par exemple?
Oh, je pense qu'on a au moins une cinquantaine de structures qui sont mobilisées sur l'ensemble de la région, sur les quatre départements Bourgogne, tout à fait, avec des cabanes.
Ce qui représente à peu près combien de cabanes aujourd'hui, là, vous savez, que vous avez pu peut-être visiter, voir
On a une petite centaine de cabanes.
Ouais.
Alors, dans le parc de l'Arquebuse, on a mis les cabanes qui étaient les plus costauds pour aller dehors, puisqu'elles sont présentées pendant 4 semaines dans un parc. Et on a différents lieux après d'accueil dans Dijon où on a installé des cabanes qui étaient plus fragiles, plus intimes. Mmh. On a des cabanes en carton, en bonbons, etc. qui sont dans différents lieux de Dijon. Donc il y a plein de petites expos de cabanes à découvrir pendant la Biennale. Et en écho de cet appel à la création de cabanes, là, qui était très ouvert, on a eu aussi envie en fait, de mobiliser Moss, qui est un artiste singulier.
Voilà, ça c'est l'autre artiste important d'inviter de la Biennale.
De la Biennale. C'est l'artiste aussi là, qui était vraiment sur le terrain pour travailler avec des patients et des équipes soignantes de 4 établissements de la région, donc un hôpital par département de la région Bourgogne. Et lui est parti en fait aménager un abri à jardin avec les patients et les équipes pendant une semaine. Il est en immersion vraiment dans chacun des hôpitaux. Et on a 4 abris à jardin qui sont complètement différents dans les univers. On est sur l'univers aussi un petit peu de Moss, très coloré, avec beaucoup de matière. Lui travaille notamment beaucoup à la tronçonneuse. Donc on a des totems, des animaux, on a plein de choses. Et c'est vrai que les 4 abris à jardin dans le parc, en écho des petites cabanes qu'on a eues aussi faites par les structures, ça fait un très joli appel autour de l'expo photo, moi je trouve.
Oui, ça fait beaucoup d'équipes investies. Du coup, comment aussi cette coordination, je dirais, vous êtes allé rencontrer chacune des équipes, vous avez accompagné les uns et les autres à cheminer dans cette idée de fabrication. Comment ça s'est un petit peu passé? Parce que sur 4 départements, une centaine de cabanes, une cinquantaine de structures, c'est un énorme travail.
Oui, c'est un travail en amont. C'est vrai que chaque manifestation, elle se travaille plusieurs mois en amont. Et itinéraire, on est vraiment, certes, on est né à Dijon, mais on a vraiment maintenant une action sur l'ensemble de la région Bourgogne. Et on avait annuellement une résidence dans le cadre du programme Culture et Santé qui se faisait jusqu'à présent au CHS, la Chartreuse de Dijon. Et cette année, on s'est dit que la Chartreuse était toujours partenaire et mobilisée sur une création de cabane, mais qu'il y avait aussi d'autres CHS en région, en fait, qui avaient cette attente-là et cette envie-là d'accueillir des artistes. Donc c'est vrai qu'il y a des hôpitaux avec qui on avait déjà travaillé sur des anciennes éditions de festivals. Je pense notamment au CH de Tonnerre et au CH de la Charité sur Loire, donc dans Lyon et dans la Nièvre, qui avaient mobilisé déjà des groupes sur des projets pendant le festival Itinéraire Singulier. Et puis on a été trouver aussi le CHS de Sevray, qui avait aussi une association culturelle, qui a un CHS qui est aussi dynamique et qu'on a pour une première fois investi à nos côtés. Donc c'est comment, au niveau aussi de nous, équipe, administrateurs et salariés, a été mobilisé sur le territoire et chacun a essayé de chapeauter un petit peu son territoire. Donc Maryse, qui est à côté de moi, a été sur le territoire de Lyon, à Tonnerre, en essayant de mobiliser localement les associations, les structures, aussi bien sur la création des petites cabanes que fédérer aussi l'établissement autour de l'accueil de Moss et la création de
peut-être juste justement Maryse, un peu comme ça sur Tonnerre, on évoquera encore une autre facette d'un des projets que vous avez suivis, mais tout ce travail de terrain, d'accompagnement de ces acteurs de terrain, ça doit être passionnant d'ailleurs.
C'était non seulement passionnant, mais très émouvant.
Oui.
Je crois qu'il y a eu un très gros travail de fait au centre hospitalier de Tonnerre, comme dans chacun des établissements, avec les patients. Je dirais que la spécificité peut-être de cette semaine sur Tonnerre, c'est que, à la différence d'autres centres hospitaliers, la MOS a été amenée à retrouver tous les jours les mêmes patients.
Oui, c'est ça.
Et qu'il y a eu une véritable relation.
Rencontre et relation.
Qui s'était instaurée entre lui et ses patients, et l'équipe mobilisée à Tonnerre, qui a créé des liens assez forts entre nous tous, avec une véritable reconnaissance de la direction aussi.
Ah oui, ça c'est important également.
Qui est venue à l'inauguration, qui est venue, c'était un moment très fort.
Ça faisait pas le projet anodin, c'est-à-dire que tout le monde, à tous les échelons finalement, de l'établissement et de ceux qui étaient... Ouais, il y avait un engagement fort de chacun. Quoi.
Très fort. Il faut savoir en plus que ça reposait quasiment sur une personne, puisque ça reposait essentiellement sur la coordinatrice de l'animation du foyer d'accueil des personnes handicapées là-bas. Donc, en partenariat avec une professionnelle menuisière qui travaillait sur un atelier occupationnel autour du bois, et la volonté de l'établissement était de faire évoluer cet atelier occupationnel vers quelque chose de plus thérapeutique, de plus créatif. Et vraiment, ils se sont saisis de cette opportunité de façon très 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 forte, et ça se poursuit puisque ils ont l'intention de continuer au retour de la cabane, de refaire des manifestations avec les patients. Et là, pour le coup, tout le travail de réseau que j'ai pu mener à l'extérieur de l'hôpital sera également, et qui a eu du mal un petit peu à aboutir pour, encore qu'à l'inauguration, il y avait énormément de monde.
Mais
se remobilisera autour de cette cabane.
Autour de cette continuité de cette cabane, quoi.
Dont normalement, début mai, à l'entrée même du festival qui a lieu sur Tonnerre tous les ans et qui est mis en place par les commerçants de la ville, on aura quelques jours spécifiquement dédiés à la cabane en amont, juste à l'entrée de ce festival qui ouvre ensuite sur la ville. Voilà.
Donc du coup, voilà une expérience de fabrication de cabane à Tonnerre. Et je me retourne aussi vers vous, Venceslas Derivo. Là, vous aussi, avec des patients, vous vous êtes aventuré finalement dans l'idée de d'imaginer, de concevoir, et puis aussi pas uniquement de l'imaginer, mais de la réaliser après très concrètement, finalement avec un groupe de patients. Là aussi de vous lancer dans l'aventure d'une avec les hommes cabanes aussi, de fabriquer une cabane.
Oui, voilà, c'était moi j'anime un atelier bois sur un centre médico-psychologique avec un groupe de quatre personnes. Et on a bien sûr répondu à l'appel du projet, parce que je connaissais antérieurement l'association Itinéraire
Singulier. Oui, il y a peu de temps, je crois que vous connaissez Itinéraire. On va y venir tout à l'heure. Oui. Je crois que même aujourd'hui, tellement vous êtes passionné par l'aventure, vous êtes devenu un bénévole.
Voilà, j'ai double casquette.
Double casquette, de fait. Voilà. Et c'est chouette de pouvoir rejoindre aussi. Mais qu'est-ce qui vous a fait, justement, comment vous avez connu ce travail? Comment vous...
À travers mon travail, justement, puisqu'on amène les patients qui sont suivis dans les hôpitaux de jour et dans le centre médico-psychologique, à travers un atelier thérapeutique de rencontres culturelles. Et donc, naturellement, on a...
Les chemins se sont croisés.
Voilà, exactement. Mmh. Voilà. Donc, dans l'atelier bois que j'anime avec ces quatre personnes, on a tout d'abord... Donc répondu à cet appel à projet de cette expo magnifique qu'est Les Hommes Cabanes. Et on a, à travers des matériaux de récupération, imaginé en ayant fouillé un petit peu les villes de Dijon, chacun de son côté, on a récupéré une
grosse... Alors qu'est-ce qu'il y avait comme matériaux là, par exemple?
Plutôt, le matériel central, c'était une vieille caisse de bois qui servait à porter... des bouteilles d'évier en verre, c'est quelque chose d'assez vieux.
Oui, tout à fait.
Et puis on est parti de ce bâti, on a imaginé plein de choses, un toit. Et au cours de cette construction, finalement, on a mis un petit peu la cabane sur le chien, puisque à travers la construction, on a retourné la cabane sur le toit pour la décorer. Ouais. Et on s'est aperçu que finalement, ce retournement était nous amenait dans une autre direction et on est parti là-dessus, c'est-à-dire que le toit est devenu le sol et on a construit un toit et cette cabane était un peu déconstruite,
asymétrique. Voilà, elle prenait des directions.
C'était une aventure.
Ouais. Voilà. Et du coup, comment les patients ont vécu? Alors ceux que vous avez entraînés avec vous, comment vous les avez sentis dans ces fabrications communes?
Très 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 porteur du projet, très intéressé, et en même temps il y avait des liens qui se sont tissés,
j'imagine,
qui étaient autres que le lien du soignant
du soignant
avec les
et
personnes qui venaient sur le centre. Et de ces liens forts, il y a eu une construction en amont de la construction de la cabane qui était qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment on va l'emmener sur le lieu de l'orangerie?
Parce que du coup, celle-ci est à l'orangerie, on peut la découvrir, celle qui a été fabriquée.
Oui,
on peut la découvrir ici, dans le parc, à côté de l'orangerie.
Parmi d'autres,
Parmi d'autres. Marie-Gina évoquait tout à l'heure l'implication aussi de l'institution. Là aussi, par rapport à ce projet-là, les autres personnels, les autres professionnels, que ce soit la direction ou les autres soignants, ont suivi, adhéré.
Oui, c'est-à-dire que la réponse à l'appel au projet, en fait, c'est aussi fédéré avec la responsable, la chargée culturelle du CHU de Dijon, Mélanie Maté, qui nous a aidé aussi à fédérer, puisqu'il y a d'autres structures sur le CHU qui ont répondu à cet appel.
Donc il y a eu toute une dynamique.
Voilà,
donc du coup, vous avez pu aller voir peut-être les inventions des autres, où il y a eu des échanges, il y a eu des circulations.
Nous nous sommes rencontrés et on a mis en commun tous les processus de fabrication. Et moi, j'avais proposé éventuellement aux personnes de la pédiatrie de pouvoir bénéficier de l'atelier bois qui est dans une maison à l'extérieur de l'hôpital.
Alors, je crois qu'en même temps, toutes ces cabanes réalisées dans les quatre départements, Alain Vasseur, il y a aussi la possibilité sur le blog de réagir. Sur le blog d'Itinéraire, vous avez eu également des retours, des écritures même.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de remettre la personne sur son expression s'appuie effectivement sur cette année, dans le cadre de la Biennale, sur la fabrication de cabanes. Mais on a aussi invité des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Et puis tout le monde n'a pas non plus la possibilité de développer un tel projet au sein de son établissement. Donc on a ouvert un blog et on a invité les gens à envoyer leurs textes On parle d'espace intime, leur lieu refuge, quelle serait leur cabane, c'est quoi ta cabane. Et donc les gens nous ont envoyé des textes. Et tous les dimanches après-midi, dans le cadre d'un micro ouvert, on invite le public, les publics, à venir déposer leur texte et venir le lire en public. On lit aussi ces textes qui nous ont été envoyés sur le blog, qui sont des textes qui ont été envoyés un peu partout de région Bourgogne, des institutions, mais aussi des particuliers qui pouvaient répondre à notre appel à projet. Encore une fois, toujours l'idée de croiser les publics, tous les publics.
Et là, grâce à Joseph, merci beaucoup, en tout cas déjà Joseph à l'avance. On va découvrir certains de ces textes et je vous propose, chers auditeurs, de découvrir ce premier texte choisi par Joseph qui évoque là aussi, ou qui est en réaction à la construction de certaines de ces cabanes.
Justement, le premier que je vais lire, il m'a attiré fortement parce que ça amène aussi un point de vue personnel. Différentes projections, entre qu'est-ce que est véritablement l'habitat. Et le premier, je vais vous le lire.
Allez-y.
On peut voir la cabane comme un abri temporaire, une habitation fugace, voire comme un jeu qui n'a pas joué, enfant. Comme un trappeur en Amérique, à la lisière des bois ou sur le bord d'une rivière. C'est la grande aventure. Là sont partis sur le nouveau continent, laissant derrière eux le vieux monde, fatigué, usé. Ils voulaient bâtir quelque chose de nouveau, le nouveau monde, repoussant toujours plus loin la frontière. La plupart se sont arrêtés en chemin. La cabane est alors devenue définitive. Elle a pu se transformer en maison, comme le témoin de quelque chose de durable. Le début d'une dynastie pour retomber tout en désuétude. D'autres sont allés jusqu'à l'autre rive, de cabane en cabane, les abandonnant l'une après l'autre, courant toujours après les mêmes chimères. Les Indiens avaient trouvé une autre solution. Ils ne construisaient pas de cabane. Leurs tipis pouvant être démontés facilement, les suivaient dans leur pérégrination. Ils n'étaient pas sédentaires et suivaient les migrations de gibier en fonction du climat. L'homme blanc les a parqués dans des réserves. Pour eux, l'entrée de la cabane a signé la fin de leur civilisation.
Je suis trop peuplé, on n'y voit plus rien. Je porte des visages qui ne sont pas les miens. Les autres ont sur moi un regard bien plus sain. Ils me regardent même comme si je pouvais tenir leurs mains. Mais peut-être un jour aurai-je toute ma tête. Oui, peut-être aurai-je un jour toute ma tête.
Tu sais, je suis aussi trop peuplée, certains matins. Tes visages déguisés reviennent de loin. Je compte mes avancées sur les doigts de la main. Je compte mes avancées sur les doigts de la main.
Je voudrais bien qu'elle reste au matin. Et si j'ai pas toute ma tête, j'ai le cœur plein. Pas toute ma tête, mais le cœur plein. Pas toute ma tête, mais le cœur plein.
Sans toi.
Vous êtes toujours sur Tropic FM et nous sommes toujours en direct de la Biennale d'art singulier organisée par Itinéraire Singulier à Dijon. Et nous allons poursuivre de l'intérieur encore un petit peu plus parce que il y a une richesse d'activité, il y a une richesse de propositions artistiques dans cette Biennale qui a commencé le 24 janvier et qui va se terminer le 16 mars prochain. Et puis bien sûr, il y a aussi des tas de rencontres artistiques. C'est un moment aussi pour rencontrer des artistes et quelquefois s'aventurer aussi dans des directions qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et là, en l'occurrence, on va évoquer avec Joël Le Guen et puis vous, Joseph, aussi cette expérience d'aller une découverte du corps, d'une découverte de manière de se mettre, de s'ouvrir à la danse. Et là, il y a eu tout un travail, Joël Le Guen, avec un artiste, je crois que vous connaissez déjà bien, Serge Ambert, parce qu'il est très investi au travers de la compagnie avec laquelle il travaille, avec tous ses publics. Et puis, il revisite aussi ce que peut être la danse, finalement. Et ce projet, c'était Corps intime, nos vies intérieures. Et je crois que l'un et l'autre, vous avez participé à ce projet-là. Comment s'est-il mis en route? Et puis, et comment vous l'avez vécu, l'un et l'autre, de l'intérieur, alors, ce projet?
Déjà, ce projet a été mis en route par l'intermédiaire d'Ardance, qui est une association de danse, qui nous a contactés. J'anime avec d'autres collègues un atelier danse sur le CATTP Bachelard. Mmh. Et donc, nous a contactés à un moment donné parce que, justement, Serge Ambert avait envie de travailler avec un groupe de patients justement sur le corps, sur l'intime. Et nous, on a déjà Serge le connaissant pour avoir travaillé avec lui dans le cadre d'itinéraires sur différents festivals. Donc l'aventure nous a bien évidemment tenté. Parce qu'on connaît le travail de Serge et sa sensibilité, et donc on avait vraiment envie de travailler avec lui. Donc voilà, ce groupe s'est formé. Nous, on a demandé à diverses personnes du CATTP, donc elles avaient envie de participer à ce projet. Là, on a rapidement eu un certain nombre de personnes volontaires. Mmh. Et on a donc eu trois ateliers d'une heure et demie avec Serge qui ont abouti sur un petit temps de restitution, donc sur la Biennale, il y a une quinzaine de jours. Et je laisserai la parole à Joseph tout à l'heure, mais c'était effectivement une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement sensible, extrêmement... parce que quelque part, chacun, je pense... on a dansé nos cabanes intimes, je pense, nos propres cabanes.
Nos cabanes intérieures
et des grandes cabanes. Mmh. Et ça a vraiment été trois ateliers, j'ai envie de dire, extraordinaires. Mmh. Où Serge a cette sensibilité, cette écoute,
cette finesse de
chacun qui a permis à tous les participants de pouvoir librement exprimer ce qu'il avait à dire avec son corps. Et c'est d'avoir vécu la restitution, de l'intérieur, c'était extrêmement émouvant, extrêmement sensible.
J'imagine.
De l'extérieur, j'espère qu'on a su toucher...
aussi celui et celle qui venait rencontrer aussi ce spectacle.
Voilà, c'est ça.
Et pour vous, Joseph, alors de l'intérieur, là on vient d'entendre en plus, dans la manière où vous nous avez raconté, lu aussi ce texte tout à l'heure, voilà, cet intérêt pour les mots, alors là aussi l'expressivité qui passe par le mouvement, par la danse, comment cette rencontre avec Serge Ambert, vous l'avez vécu aussi de l'intérieur?
J'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante. Mmh. En plus, travailler avec des professionnels, ça permet d'ouvrir aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Et ce qui m'a bien plu, c'est les différentes facettes de mouvement à travers cet exercice qui permet... on était aussi... ce qui a facilité la chose, c'est que... Enfin, moi, je parle en tant que patient. C'est que... Ça compte beaucoup, c'est qu'il y a... On se connaît pratiquement tous. Mmh. Donc, il y a déjà une barrière, un tabou qui est... Mmh. qui s'en va, c'est le regard de l'autre, la peur de la moquerie, et ce qui fait que
ça a installé d'autres rapports entre vous, quoi, que ceux que vous aviez d'habitude.
Voilà, c'est du fait qu'on se connaît déjà plus ou moins, ça a permis un lien encore un peu plus profond, oser d'aller faire des choses qu'on n'oserait pas faire en temps normal. Donc, ce qui fait que ça a bien aidé. Et puis, tous les exercices qu'on a pu faire avec Serge, ça a permis de découvrir aussi des facettes du corps qui n'est pas forcément évident.
Moi, oui, parce qu'on trouve d'autres, il y a d'autres parties du corps peut-être qui se sont trouvées sollicitées.
Voilà, c'est ça. Et moi, le premier, quand même une surcharge pondérale importante, et puis
pas tant que ça.
la balance, elle dit autrement. Et il y a aussi découvrir aussi des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, des choses comme ça. Et en parallèle, c'est une façon de voir la chose, c'est que je dirais plutôt deux choses. La première, c'est que ça a été très intéressant de découvrir la partie avec Serge, et qui alimente d'autres ateliers comme moi je peux faire. Améliorer le déplacement quand on fait du théâtre.
Bien sûr.
Et il y a plus de 20 ans de ça, j'avais commencé à faire un peu de danse de salon. Et je faisais certaines choses, mais pas d'autres. Parce qu'il y avait l'inhibition. Et les années ont passé, le théâtre est passé par là. Ça m'a donné une thérapie très positive vis-à-vis du théâtre. Et avec Serge, ça me donne encore un complément. Qui m'aidera pour le théâtre, et le jour que je voudrais refaire de la danse de salon, j'oserai de faire des danses qui ne sont plus démonstratives, si je puis dire.
On voit bien, en tout cas, que ce que peut être aussi la Biennale, c'est-à-dire des croisements, des transversalités, et que chacun a sa biographie, chacun a son parcours, mais que du coup, ces rencontres viennent alimenter aussi ce parcours, et puis peut-être ouvrir quelquefois de nouveaux possibles, ou de nouvelles envies, ou conforter peut-être aussi des choix, ou des envies, là aussi, fortes. Et c'est un travail, Joël, qui va se poursuivre avec Serge. Là, c'est une rencontre là de quelques jours. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va, de fait, de l'intérêt et de cette envie peut-être d'aller peut-être plus loin dans ce travail? C'est quelque chose qui risque de se continuer?
Oui, on a eu justement à la suite de cette petite expérience, une rencontre cette semaine avec donc les gens d'Ardance. Et effectivement, on va revoir avec Serge, mais il y aurait certainement un projet sur l'année prochaine, avec beaucoup plus d'ateliers pour aller peut-être un petit peu plus loin dans le travail avec Serge. Mais en tout cas, a priori, l'année prochaine, il y aura effectivement une deuxième expérience beaucoup plus longue avec Serge.
Bon, ça, voilà, quelque chose d'important et de passionnant à suivre et qui, je suis sûr, va encore mener toutes ces personnes encore vers plein d'autres découvertes. Alors, on va continuer. Tout à l'heure, on évoquait déjà les cabanes. Avec Marie-Ginet, on a évoqué déjà ce qui s'était passé à Tonnerre. Mais il y a aussi encore à l'intérieur de tout ce qu'on a commencé de dépeindre ou de tirer les ficelles un petit peu qui sont là à l'intérieur ou qui constituent cette troisième édition de la Biennale d'Art Singulier. Aussi un projet aussi particulier, c'est quoi ta maison, hein, et c'est plus vous, Marie Ginet, qui avait suivi, qui avait piloté aussi un petit peu ce projet, qui l'a aussi fédéré. On parlait déjà pas mal d'acteurs tout à l'heure. Là aussi, a fédéré un grand nombre d'acteurs dans cette réalisation autour de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de c'est quoi ma maison, c'est quoi ta maison?
C'est quoi ta maison? C'est né en fait cet été d'une expulsion assez brutale de demandeurs d'asile, de migrants qui étaient logés sur Dijon et qui ont été délogés par bulldozer et qui se sont retrouvés à la rue.
Donc un événement fort, quoi.
Un événement fort au mois d'août et qui était fort mais qui a résonné dans un grand vide puisque beaucoup de gens étaient en vacances. et qui est venu en écho d'une exposition photo que j'avais découvert, qui a eu lieu en 2012, à partir de photos qui ont été prises à Lausanne, dans les jardins de Vidi, qui s'appelait « Des baraques et des hommes », et qui était aussi sur une thématique de migrants réfugiés dans les baraques de jardins des jardins de Vidi.
Ah oui.
Et donc, ça m'a fait écho avec l'exposition de Mario Del Curto.
Bien sûr.
Bon, puis d'autres événements comme ça sont venus en écho. Et donc, j'ai proposé qu'itinéraire singulier, ça me semblait difficile de faire une exposition sur l'abri, le refuge dans la tourmente du monde, comme dit si bien Alain, n'évoque pas aussi cette tranche de vie.
Cette tranche de vie-là, hein, particulière, ouais.
Et voilà. Donc, de fil en aiguille, les collectifs qui existaient autour des migrants se sont mobilisés autour de ce projet. Ils ont tout de suite saisi
l'importance
de cette proposition et s'en sont saisis avec une motivation et une énergie extraordinaire. Et de là sont nés deux projets d'ateliers d'expression. Le premier a été proposé par une association qui accompagnait les Roms et qui a proposé un atelier de construction de cabane avec des adolescents issus de la communauté Rom et d'autres adolescents venus d'ici et d'ailleurs. Et puis le collectif Migrants Asile 21 qui a proposé, lui, de tourner une vidéo témoignage sur comment les migrants arrivaient quand même à travers ce bouleversement qu'ils vivaient, à s'approprier les quelques lieux en termes de refuge et d'abri dans cette grande migration qu'ils traversaient. Voilà. Donc ces deux projets ont vu le jour et se poursuivent, puisque là on est encore en pleine biennale.
En pleine biennale, voilà. Absolument.
Seront restitués le 15 mars au cours d'une après-midi qui s'inscrit dans le week-end de clôture, mais qui s'inscrit surtout le jour de la fin de la trêve hivernale.
Là aussi, donc, un moment fort.
Voilà,
également.
Un moment très fort. Voilà. Donc, l'atelier de construction de cabane avec les ados donc regroupe des adolescents issus de la communauté Rom, des adolescents de Dijon, et puis est animé par une art-thérapeute de bachelor, vice-présidente d'Itinéraire Singulier, une personne qui connaît bien les adolescents, qui les a accompagnés de l'association Adizard et de la CIMAD, et puis un artiste reporter congolais populaire, Jean-Marie Dimo Kefis, qui est lui aussi demandeur d'asile.
D'accord.
Et qui, a, dans son pays d'origine, a, dans son atelier, accueillait les jeunes enfants. Il y a une situation particulière avec les enfants au Congo et accueillait les enfants pour leur offrir la possibilité de faire de la peinture. Donc voilà, les choses se sont mises en place comme ça. Nous sommes accueillis dans un lieu qui s'appelle le Réseau Fétard, qui est un espace multidisciplinaire qui vit aussi associatif, qui vit grâce à la motivation aussi de jeunes qui ont un peu pour devise qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Alors ils l'ont fait, celle de Cocteau, justement.
Et qui accueille beaucoup de projets comme ça, portés soit par des individus, soit par des associations, qui est un véritable lieu de vie. Ça me semblait important aussi que les adolescents soit dans un contexte un petit peu particulier. Et la cabane construite retournera dans ce lieu à l'issue de l'atelier. Et puis, nous sommes accompagnés aussi dans cette aventure par un autre réseau associatif qui s'appelle Zigolo Café, qui est là aussi une équipe de jeunes qui ont fait vivre un café associatif destiné aux enfants et à leurs parents, aux adultes, et qui nous accompagne aussi dans cette aventure. Voilà.
Oui, là, on voit un collectif très important et certainement un travail de médiation, là aussi, j'imagine, long est là aussi essentielle, mais on sent une énergie forte, quoi,
voilà,
à travers.
Voilà. Je veux dire que les choses parfois ont été plus vite et moins longues que ce que
qu'on pourrait l'imaginer quand on relaste.
Parce que les gens sont tellement motivés de là où ils sont que les choses se sont un peu mises en place très vite. L'autre atelier, donc l'atelier vidéo, a été porté essentiellement par les personnes de réseau Éducation sans frontières et puis de la lutte des droits de l'homme et du CCFD qui interviennent dans les lieux squattés pour rencontrer les personnes. Et donc la vidéo est terminée, elle a pu être vue. Je ne sais pas si Camille veut nous en dire quelques mots, puisque Camille était à la projection de prévisionnage de cette vidéo.
Mais moi, j'ai trouvé que la vidéo, donc c'est un court-métrage, hein, il y a une petite quinzaine de minutes. En 15 minutes, c'était une sorte de claque que je me suis prise. Vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper fort, hyper poignant et hyper émouvant, parce qu'on voit vraiment les gens dans une précarité telle que j'avais du mal à imaginer, en fait, les conditions de vie.
Ça provoque des prises de conscience.
Ouais, une prise de conscience, et en effet, ça change le regard qu'on peut porter sur l'autre. Donc non, c'est un très beau témoignage, avec une humanité et un partage. On sent qu'il y a un réseau de solidarité qui se met en place, et on se dit, waouh, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui s'engagent autant et qui sont militants. Pour venir en aide comme ça aux plus démunis. Donc non, c'est un très très beau film.
Peut-être Joseph, alors un autre texte sur comment on voit là aussi quelqu'un perçoit les cabanes ou a envie d'imaginer sa cabane.
J'ai eu un coup de cœur pour un poème et il y a une façon très forte où c'est ressenti par l'intérieur. Donc je vais vous le lire. Ma cabane est à l'extérieur, mon cœur est à l'intérieur. Ma chaleur est à l'intérieur, ma froideur est à l'extérieur. Ma réflexion est à l'intérieur, mes idées sont à l'extérieur. Mon temps est limité à l'intérieur, mon temps est prolongé à l'extérieur. Je suis mort à l'intérieur, je suis seul à l'extérieur. Dans ma cabane, il n'y a plus de ciel. Dans ma cabane, il n'y a plus l'esprit de groupe. Dans ma cabane, il n'y a plus de télévision. Dans ma cabane, il n'y a plus des mauvaises connaissances. Dans ma cabane, il y a la solitude et la peur. Canada enneigé, balayé par les vents, au centre de ce blanc pays, je me sens bien en paix avec moi-même, avec quelques douceurs à déguster.
C'est superbe. Quelle richesse, en tout cas, Alain Vasseur, quand on arrive bientôt au terme de cette émission, mais bien sûr, on ne peut tout évoquer, mais on se rend compte quand même, au travers tous les témoignages qu'on a eus autour de cette table, de la richesse, justement, de ce qui se passe ici et ces super belles énergies, enfin, quand on évoque, toutes ces personnes, qui n'ont pas de domicile, qui sont en quête de trouver quand même un endroit où vivre, c'est fort, quoi.
Je crois que c'est toute la richesse du travail d'itinéraire singulier, c'est de effectivement croiser toutes ces énergies et de sentir que quelque part il y a une espèce de rhizome qui est en train de tisser.
Et on perçoit dans tout ce que vous nous évoquez.
Et véritable hamac par rapport au chaos monde qu'on traverse actuellement et les grandes difficultés.
C'est certain. Alors. J'imagine qu'il y a plein de projets. Enfin, tout ça, ça donne aussi. C'est un gros travail. Alors, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il y a la Biennale d'art singulier, mais il y a aussi le festival. Qui vient un petit peu aussi en alternance. On l'a pas indiqué de cette manière-là tout à l'heure, mais c'est important de le dire que du coup, Itinéraire s'arrête pas à la fin de cette Biennale, mais ça génère justement un ensemble de projets qui, du festival à la Biennale, peut-être font des liens aussi.
Rappeler que la Biennale, c'est d'art singulier, elle propose d'avoir des œuvres, donc. On l'a dit tout à l'heure, issu de courants de l'art brut et de l'art singulier, tout en dessinant les contours d'un laboratoire de recherche et de réflexion autour de ça. Donc ce qui est créé autour de la Biennale, de cette exposition, c'est tout ce qu'on a entendu là
tout complètement.
Voilà, c'est que d'imaginer des actions en écho de cette thématique.
Et ça correspond bien à ce que peut-être un pôle ressources finalement aussi.
Absolument.
Enfin, en tout cas, chacun peut avoir son point de vue sur ce que peut-être un pôle ressources, mais en tout cas de mettre en lien, de soutenir les émergences, d'accompagner, de faire en sorte que des acteurs de terrain puissent s'investir aussi dans certaines idées, dans leur expression, puis que ces pensées et ces manières de dire soient présentes en
absolument.
Tout cas, dans l'espace public.
C'est un rendez-vous. En fait, il y a deux grands rendez-vous, parce qu'il y a plein d'actions en trait d'union, en pointillé tout au long de l'année, l'itinéraire, mais les deux grands rendez-vous, donc effectivement, c'est la biennale, les années paires, et les années impaires, nous avons le festival. Et ce festival constitue plutôt un coup de projecteur porté sur les actions menées sur le territoire auprès des populations marginalisées ou fragilisées, toujours à l'interface des champs culturels, artistiques, sociaux, sanitaires, mais éco-sociaux, au niveau régional et national. C'est-à-dire qu'on fait aussi venir des expériences qui ont été réalisées dans d'autres régions. C'est comme ça que nos chemins se sont croisés.
Absolument.
Parce que nous avons un petit peu les mêmes missions au niveau de la Bourgogne que Résonance.
Au niveau de la région Rhône-Alpes.
Au niveau de la région Rhône-Alpes. Et ce partenariat-là, c'est ce qu'on va chercher à développer, bien sûr, au niveau national avec d'autres structures. Je pense, par exemple, avec la Bulle Bleue, qui est aussi...
Tout à fait, à Montpellier. Là aussi, une initiative fort pertinente.
Fort pertinente. Avec cette structure, nous souhaitons aussi bien évidemment développer des partenariats. Aujourd'hui, face aux difficultés financières que toutes les structures ont, il est bon de fédérer les énergies et de croiser nos chemins.
Alors c'est pour ça, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre dans la Bourgogne toute proche et suivre les chemins, les routes de cette belle région pour découvrir toutes ces cabanes et les belles découvertes que nous offre encore pour quelques jours la troisième biennale d'itinéraire singulier. Vous pouvez retrouver toutes les précisions et informations sur le site www.itinéraire-singulier.com ou bien sûr en téléphonant directement auprès du bureau d'itinéraire singulier au 03 80 41 37 84. Nous arrivons au terme de cette émission qui était donc enregistrée le 6 mars dernier dans le cadre de la Grande Orangerie à Dijon. Et bien sûr, je vous remercie vivement, en tout cas les unes, les uns et les autres, de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette émission. Et puis je remercie également notre équipe technique avec Laurent Cusin à la régie générale, Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, et pour écouter votre radio préférée qui est Radio Tropique, en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes, vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Voilà, nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. En espérant vous retrouver lors de notre prochaine émission. À très vite.